Ces élèves de 3e du collège Samuel Paty de Conflans-Sainte-Honorine étaient conscients de l'étendue des métiers pour un ingénieur aéronautique. Ils ont voulu savoir en quoi consiste ce titre et ce qu'on peut en faire. Un ingénieur aéronautique chargé de l'équipement électronique sur les avions répond à leurs questions.
Bonjour à vous, merci de nous avoir accordé votre temps à la classe de 3e 4 du collège Samuel Paty de Conflans-Sainte-Honorine. Nous avons conscience que les questions que nous allons vous poser concernent le titre d'ingénieur, mais aussi au niveau du domaine de l'aéronautique.
Je suis François, donc ingénieur aéronautique donc à Thalès, et donc je travaille la partie électronique des avions. Donc un avion, c'est à la fois mécanique, hydraulique et électronique. Donc c'est un élément très complexe au niveau environnement, et donc des métiers, on va dire, très très divers. Donc, il y a ingénieur côté mécanicien, ingénieur électronique, ingénieur informatique, par exemple. Donc c'est un métier très très vaste au niveau domaine. C'est pas un métier unique.
Qu'est-ce que l'aéronautique ?
Alors ce secteur en fait des avions, les hélicoptères, les drones en fait, donc tout ce qui vole en fait, on va dire tout ce qui vole. Donc les avions, on va dire civils, militaires. Donc c'est très très vaste comme domaine. Hein. Et donc effectivement les métiers sont très différents entre les avions civils et militaires. C'est des domaines très très différents parce que les avions sont plus, on va dire, plus longs pour le civil et plus rapides pour le militaire.
Qu'est-ce que le titre d'ingénieur aéronautique et existe-t-il plusieurs grades d'ingénieur ?
Alors oui, donc c'est un titre, donc c'est un diplôme d'État pour être dans le domaine, donc c'est un diplôme d'ingénieur. Effectivement, donc, il y a trois niveaux en fait, donc il y a débutant, on va dire confirmé et expert, donc il y a plusieurs domaines différents, c'est voilà. Donc il y a des titres différents par rapport à ça. Donc si on commence sur débutant, après on est, on va dire, confirmé et après on est expert dans le domaine.
Quelle école avez-vous faite et comment y accède-t-on ?
Alors j'ai fait donc une école d'ingénieur à Paris en fait, donc c'est un bac plus 5. Hein. Et donc c'est effectivement pendant 5 ans l'étudier le domaine en question. Donc c'est électronique, voilà, donc c'est de 5 ans après le bac.
Quelle est la durée et la nature des études ? Y a-t-il des spécialités ?
Oui, bien sûr, donc il y a plusieurs secteurs possibles. Après, il faut un secteur, donc il y a le secteur très très précis, c'est-à-dire électronique de bord, l'informatique, la partie cybersécurité par exemple qui sont importants par exemple. Donc les métiers sont très très diverses, mais il faut surtout rester dans le domaine généraux parce qu'on voit que maintenant les secteurs évoluent très très vite. Donc un métier en fait peut exister à un moment donné et disparaître 6 mois, on va dire 5 ans après. Donc faut surtout un secteur, il ne faut pas prendre des métiers très très généraux et pas de domaine très trop on va dire spécifique parce que ça disparaît dans le temps quoi. Par exemple la mécanique c'est bien, mais ça évolue aussi pas mal quoi. Donc surtout prendre des métiers très très généraux et pas de secteur trop ciblé sur un domaine précis.
Quelles disciplines sont importantes au lycée pour viser ce parcours ?
Alors, bonne question. Il faut surtout être très, très général. Donc, il faut bien être bon en français, en anglais, en maths et en physique. Et surtout, être rigoureux dans le travail. Donc, c'est un métier qui demande de rigueur technique, en fait. Donc, il faut être passionné par son travail. Voilà. Mais effectivement, ce n'est pas un secteur unique. C'est un métier très, très général. Donc, il faut être très, très bon partout, en fait.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces études et à quel moment ?
C'est-à-dire que voler des avions, ça fait toujours rêver, quoi. Donc c'est sûr que voir un avion qui vole, ça, c'est du rêve aussi pour les jeunes. Donc c'est la raison principale.
Avez-vous été directement recruté à la sortie de vos études ? Depuis combien de temps ? Y avait-il d'autres débouches ?
Non, je commençais donc il y a 30 ans dans le secteur en tant que tel. Donc directement dans la partie aéronautique, donc pour Boeing et Airbus au départ en fait. Donc, je travaillais beaucoup pour Airbus et Boeing au départ. Et oui, alors en fait, les métiers sont très très proches entre, là, c'est pas dire ferroviaire, donc faire un train ou un avion, c'est proche, effectivement, c'est assez large comme domaine.
Quel est votre parcours professionnel et votre métier aujourd'hui ?
Alors, j'ai commencé au départ par faire des équipements pour Boeing et Airbus au départ, donc, et maintenant, j'ai maintenant des équipes techniques en fait qui gèrent pour moi le travail qui est fait, quoi. Donc, j'ai à peu près maintenant 15 personnes qui travaillent avec moi pour tous les projets, disons, c'est important pour le. Au départ, on commence par le sujet simple. C'est-à-dire, au départ, on fait une tâche technique qui est assez ciblée, précise sur un projet. Et puis après, plus on grandit dans la vie industrielle, en fait, plus après, on fait des projets, dire, importants et plus gros. Donc, au départ, j'ai commencé à travailler sur un équipement d'Airbus pour le système qui sert à dire à naviguer et faire les avions tout seul sur les aéroports, en fait, parce que maintenant, ils sont carrément guidés à distance, et tout seul sur les pistes. Il n'y a plus d'interaction manuelle pour pouvoir atterrir sur une piste. Hein. Maintenant, c'est automatique. Et maintenant, j'ai maintenant plus d'équipement de l'avion. Ça évolue comme ça, pas maintenant, ça évolue dans le temps. Quoi.
Votre métier est-il routinier ou très varié ? Pouvez-vous nous raconter une journée type ?
Alors, chaque jour est différent parce qu'en fait, chaque jour, il se passe des choses qu'on doit gérer en tant que tel. Par exemple, si un vol d'essai se passe mal, il faut agir pour corriger le problème technique. Hein. Donc, chaque jour est vraiment très différent. Il n'y a pas de jour type, en fait. Et donc, et surtout, chaque personne qui travaille dessus, en fait, a un métier très différent et c'est très, très varié comme sujet. Il n'y a pas de journée type routinière. C'est vraiment... par exemple, là, on a fait un vol sur un Rafale il y a quelques semaines, là. Donc, ça m'est passé. On a corrigé le problème assez vite. Et donc, ça bouge en permanence. Les sujets sont très, très variés. Par exemple, en fait, quand un vol d'essai se fait sur un avion civil militaire, par exemple, donc le vol se fait, et en tout, on dit, voilà, il s'est passé telle chose, bonne ou mauvaise. Et donc, on corrige les choses par rapport à ça. Alors, ces questions, j'irais plutôt à dire logiciel, hein, parce que c'est, en général, c'est plutôt l'aspect... Enfin, en gros, c'est quoi des fonctions logicielles de l'avion qui sont à corriger.
Avec votre titre et votre expérience, à quel autre métier ou entreprise pourriez-vous prétendre ?
Alors, je dis qu'en fait, il y a effectivement une grosse synergie entre l'aéronautique et le ferroviaire, parce qu'on voit que tout ce qui est embarqué sur un avion est très proche de ce qui est embarqué sur un train, par exemple. Donc, c'est des secteurs qui sont proches. Alors, spatial, un petit peu aussi, mais bon, c'est un secteur qui est plus pointu que celui-là. Donc, c'est les principaux métiers, je pense, qu'on a actuellement, c'est ça. Donc, le ferroviaire et les avions.
Utilisez-vous l'IA et l'évolution de celle-ci peut-elle modifier votre métier ? Est-il menacé ?
Alors, c'est une bonne question. L'IA, oui, on commence à l'utiliser maintenant dans le métier. Après, effectivement, ces métiers vont bouger certainement, parce que d'abord, les métiers changent en permanence. Il faut voir que le métier n'est jamais pérenne, n'est jamais stable. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir une formation générale et pas un secteur de pointe précis, parce que les métiers changent tellement rapidement qu'un métier peut disparaître très vite, inversement, ou se créer. Par rapport à ce que je fais maintenant, je travaille différemment par rapport à il y a 20 ans. Voyez, ça évolue très très vite comme secteur.
Vous pouvez nous donner un exemple ?
Par exemple, il y a 20 ans, parce qu'en fait, quand on fait un avion, il faut écrire plein de documents techniques. Donc, oui, une phase de documents à rédiger. Avant, c'était fait par un secrétaire. Maintenant, on fait des documents nous-mêmes, en anglais directement et tout ça. Ça évolue pas mal dans ces métiers-là. Et il ne faut pas se dire, le métier-là, ça sera le même qu'on fera dans 20 ans, dans 30 ans.
Et demain, ça pourra être fait par l'IA ?
Alors, en partie, en fait, maintenant, on commence à faire du code informatique en IA. On commence à en faire. Mais après, il faut bien sûr vérifier et tout ça.
Donc, le métier, maintenant, c'est vérificateur ?
Non, en fait, on doit concevoir le système. En fait. Donc, effectivement, on doit, bien sûr, suivre ce qui est fait au niveau technique. Et donc, après, on doit qualifier ce qui est fait. Donc, effectivement, l'IA sert un petit peu, mais ce n'est pas pour tout. Donc, ça peut dire que ces métiers-là, ils sont pérennes. Ils sont pérennes. Parce qu'en fait, le principal, c'est ce que pensent les gens et ce que font les gens. Ce n'est pas l'IA. Donc, il y a une force à avoir par rapport à ça.
Quelle est la fourchette de salaire dans votre métier ?
Alors, les salaires commencent à peu près à 2 fois le SMIC, à peu près, et puis après, monter suivant les fonctions qu'on a. Donc, le salaire est assez bon, mais bon, c'est quand même des métiers intéressants, et surtout, les salaires évoluent dans le temps. Hein. Et après, ça peut monter après à 4 fois, enfin, suivant les fonctions et tout ça. 4 fois, voire plus, suivant les grades.
Avez-vous des supérieurs et êtes-vous haut placé dans votre société ?
Alors bien sûr, on a forcément des chefs ou des gens qui dirigent les projets. Donc il y a forcément des gens qui dirigent les projets. Moi personnellement, donc je suis on va dire soit directeur d'avion en fait. Donc je suis donc à niveau on va dire sous directeur. Forcément, chacun a une fonction donnée et puis on a forcément un chef. Hein. Alors projet, donc c'est des avions qui volent très vite et à Mach 2, donc il y en a qu'un seul en France, hein, c'est le Rafale. Mais effectivement, donc, je travaille sur le Rafale actuellement et je travaille sur les avions style Airbus et Boeing. Un projet, c'est que le client a un besoin, il dit voilà, j'ai besoin d'une fonction ou d'un équipement en tant que tel, et après on doit le concevoir, le proposer, le faire, et après on va dire le livrer et qualifier. Un projet dure en moyenne 5 ans, moyenne. Hein. Il faut voir qu'un avion, on le fait entre 5 ans et 10 ans. Suivant les avions, il faut au moins 5 ans pour construire un avion réellement et le faire. Donc c'est très très long. Et surtout, ça serait d'équipe. Hein. On n'est pas seul, hein. On est plein de gens à travailler ensemble. Donc ça travaille, on va dire, en coopération.
Et pourquoi c'est long ?
Parce que c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire. Par exemple, un avion, il faut pour le produire en moyenne 3 ans. Un avion qui est produit en série, autrement, on fait la première pièce élémentaire, il sort il y a 3 ans.
Habitez-vous près de votre lieu de travail et faites-vous du télétravail ?
Alors, j'habite effectivement à Conflans, donc je travaille effectivement à Gennevilliers, donc effectivement, c'est pas trop loin. Il faut savoir que dans le Maine, l'industrie est surtout basée effectivement à Paris, Bordeaux et Toulouse. Donc il y a trois principaux bassins de poids qui sont... Donc, de France, Bordeaux et Toulouse, en fait. On peut travailler à distance, ça, on en fait, oui. Par contre, l'aspect humain est important parce qu'on met qu'on travaille en équipe, il faut se voir. Donc on ne passe pas tout le temps à distance.
Avez-vous des déplacements et si oui, où?
Alors oui, j'en fais effectivement en moyenne un, deux par mois, et donc sur les bases françaises pour voir les avions et tout ça. Donc effectivement, pour voir l'avion voler, c'est important parce qu'on voit l'avion qui vole, donc c'est super important à voir.
Avez-vous des échanges avec des personnes de votre société ou d'autres sur quel sujet?
Alors, il faut savoir qu'un avion, c'est conçu en moyenne à peu près 1000 personnes au plus, donc il y a plein de travail sur un sujet, donc c'est un travail qui est énorme au niveau technique. Hein. Et un projet en moyenne, c'est entre 10 et 15 personnes. Hein. Donc c'est oui, on est 15 personnes qui travaillent sur un sujet ensemble. Donc forcément, il y a beaucoup d'échanges, des réunions et tout ça. Des clients, oui, aussi, bien sûr. Il y a des réunions chaque mois pour sur les sujets, avancer les sujets réellement. Ça peut dire, c'est un travail, on va dire, en coopération. On n'est pas seul sur.
Estimez-vous que ce que vous faites a un impact sur quelque chose et sur quoi?
Alors, il faut savoir que dans ce domaine-là, la France est quand même leader mondial dans le domaine, avec l'Allemagne et puis les États-Unis. Donc, ce qu'on fait, c'est forcément des projets qui sont uniques au monde en général. Donc, on a des technologies qui sont vraiment toutes nouvelles. Et vraiment, on peut dire ce qu'on fait, c'est unique au monde. Donc forcément, pour les gens, c'est-à-dire, c'est important.
Pensez-vous que votre famille et vos amis sont fiers de vous?
Je pense, oui. Je pense, voilà. Oui. Parce que quand l'avion vole dans le ciel, on dit, voilà, il y a un bout de soi forcément dans l'avion.
Quel avantage et inconvénient voyez-vous dans votre métier? Vous sentez-vous épanoui?
Alors l'avantage, effectivement, c'est un métier qui est extrêmement vaste. Donc forcément, chaque jour, on travaille différemment. Donc c'est un métier qui n'est pas routinier. On fait des choses très différentes tous les jours. Hein. Donc forcément, c'est intéressant. On a plein de gens différents, qui sont des gens extrêmement intéressants, donc des gens qui sont vraiment d'une culture vraiment intéressante et partagée comme sujet. Ce qui est dur, c'est que forcément, c'est un plein de travail. Donc forcément, quand un avion a un problème technique, il faut que ça se corrige très vite. Donc forcément, il y a du stress, tout ça. Mais globalement, je veux dire, c'est positif. Négatif, c'est le travail qui est important. Mais c'est pour ça qu'il faut être motivé pour faire ça, parce qu'il faut travailler. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans ce métier-là, pour réussir les études, il faut effectivement travailler beaucoup, en fait. Donc si quelqu'un, un niveau scolaire qui est de moyenne et qui travaille beaucoup, il va réussir. Parce que c'est ça qui compte, c'est de travailler pour réussir. Et donc, voilà. Mais c'est ça qui fait la force par rapport à ce métier-là et ce qui fait qu'on a le diplôme d'ingénieur à la fin, c'est le travail. Donc, il faut se dire, OK, je ne suis pas forcément super bon à l'école, mais je suis peut-être moyen ou bon, on va réussir, mais il faut travailler.
Quelles sont les qualités requises pour faire les études que vous avez faites, puis le métier que vous exercez?
Donc effectivement, c'est une bonne question. Il faut être surtout très motivé, aimer ce qu'on veut faire, donc une passion, et voilà, et faire les choses comme on veut le faire. Donc si on est très motivé, qu'on travaille pour le faire, on va y arriver. Il ne faut pas forcément se dire, on est super bon à l'école, j'ai pas de chance. Non. Et surtout, il faut être très bon partout, parce qu'on voit bien que globalement, si on est bon en maths uniquement, ce n'est pas suffisant. Il faut être bon moyen partout, mais il faut travailler. En fait, dans ce métier-là, on ne peut pas réussir si on est à l'école très très bon, mais non motivé. Il faut plutôt lorsqu'il y a à dire on est moyen et très motivé pour réussir, que l'inverse. Voilà. Donc si vous travaillez beaucoup à l'école, ça va marcher.
Ah, avez-vous des vols gratuits ou d'autres avantages?
Alors malheureusement non. Non, parce qu'en fait, les avantages sont surtout pour les gens qui travaillent chez Air France et tout ça, mais nous on n'a pas d'avantages comme ça.
Quel est votre meilleur souvenir et le plus mauvais?
Alors le meilleur c'est voilà, on a qualifié il y a à peu près 3 ans donc le Rafale pour la France, pour un vol d'essai, donc c'était compliqué, on a réussi à le faire. On était à l'heure, l'avion a volé correctement et donc tout était bon. Voilà, donc c'était une réussite technique globale. Les attentes étaient très courtes en fait, donc on a réussi à qualifier des choses sur l'avion qui était compliqué à faire. On l'a fait. Et alors le pire, c'est forcément c'est l'inverse, qu'un avion, un vol d'essai, ça ne marche pas. Donc forcément, on dit là, ça ne marche pas du tout, il faut le refaire. Là, c'est forcément, pour nous tous, c'est un moment qui est dur. Mais effectivement, ça souvent, hein, c'est que souvent, forcément, ça marche à la fin. Mais au début, ça ne marche pas forcément tout le temps. Donc forcément, quand on dit, tiens, quelque chose qui ne marche pas très bien, forcément, on est tout déçu en tant que tel.
Auriez-vous une anecdote amusante à nous raconter?
Oui, alors voilà, on a conçu il y a quelques années donc, l'Airbus A380, qui est le plus gros avion du monde, en fait. Donc pendant 5 ans, donc, les Allemands et les Français ont conçu l'avion, parce que c'est un avion qui était fait entre la France et l'Allemagne, entre autres. Donc les Allemands ont fait le fuselage arrière, la France a fait la partie avant de l'avion. Donc pendant 5 ans, on a travaillé. Et quand on a monté les deux parties d'avion à Toulouse, en fait, donc au bout de ça qu'on travaille, il y avait une erreur. Et en fait, tout le câblage d'avion était trop court. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des milliers de câbles qui ont été faits dans l'avion qui étaient à refaire. Ils ont passé un an à tout refaire, malgré des réunions entre la France et l'Allemagne, parce que les cultures entre la France et l'Allemagne étaient à l'époque différentes. Et donc, bah, oui, c'est bon, ça marchait. Et bien, t'as vu en face, ça ne marchait pas. Voilà. Donc, ça coûtait forcément très cher, très cher.
Quel genre de clients avez-vous en général ?
Alors, les clients sont à la fois donc, Airbus et Boeing, donc en gros des gens qui parlent français ou américain, donc des gens qui sont d'origine étrangère ou française. Et après, ce sont les nations qui veulent après faire des avions particuliers, donc et la France, effectivement, fait le Rafale, par exemple. Donc, effectivement, les relations sont très différentes entre les étrangers et les clients français. Donc, mais en tout cas, c'est très très vaste comme domaine.
Avec votre métier d'ingénieur en aéronautique, quelle langue que vous deviez parler ?
Alors, c'est le français et l'anglais. Effectivement, on fait pas mal de documents en anglais. Donc, il faut maîtriser l'anglais et le français.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres pays que l'Allemagne ?
Oui, alors, USA, l'Angleterre, l'Espagne, voilà, ces pays-là.
Comment vous diriez que va évoluer la rivalité entre le Rafale et le F-32 dans les années à venir ?
Alors, c'est pas une question. On est en train justement de travailler sur le SCAF, qui est le prochain avion qui va passer le Rafale, donc sortir d'ici à peu près 10 ans. Effectivement, c'est un avion qui sera très furtif et très différent par rapport au Rafale, qui est un avion assez, dire, dans le tel. Et donc, effectivement, l'avenir, ce sont les drones et les avions en couple. Attends, effectivement, vous avez des couples d'avions avec le combat et les drones tactiques à côté, qui seront en paire. Ils vont voler ensemble. Voilà. Et pour le civil, l'avenir, c'est les avions, on va dire, verts, c'est-à-dire non bruyants et surtout qu'on ne consomme pas trop de pétrole. Et donc, ça va bouger beaucoup bientôt. Voilà, ça va bouger à terme en tant que tel, avec des moteurs tout nouveaux, ils ont très différentes formes. Donc l'avenir va bouger beaucoup.
Qui sont vos concurrents ?
Alors concurrents, c'est une question. Donc concurrents, donc il y a Boeing côté américain, et puis côté en fait avant de chasse. Donc c'est surtout Saab qui est doit, et effectivement et également les Anglais et Allemands qui font un avion aussi concurrent. En gros, il y a trois avions de chasse en France, donc en Europe, donc il y a le Rafale, le Gripen et le Typhoon, en fait, qui sont en fait des avions européens. Et il y a un avion qui s'appelle le F-35, qui est l'avion concurrent, effectivement, fait côté des États-Unis. Et le SCAF sera équivalent à l'avion F-35.
Est-ce que vous savez les conséquences qu'on se prend si, par exemple, on divulgue les informations qui sont sensibles par rapport à la construction des avions, etc.
Effectivement, certaines données sont sensibles, donc pas diffusables en fait dans la presse ou dans la comme ça quoi. Donc effectivement, on a des éléments qui sont sensibles, on peut pas dire en tant que tel. Et effectivement, donc la V35 est conçue effectivement à des données sensibles, on peut pas communiquer forcément comme ça. Une partie qui est protégée en fait hein, par rapport à ça.
Est-ce que vous avez déjà étudié la conception d'un bombardier ?
Alors quand on dit le Rafale, c'est un bombardier en fait. C'est un bombardier le Rafale. Donc effectivement, oui, tout ce qui est munitions, effectivement, c'est lié au Rafale, oui.
Quelles vont, vous pensez, être les prochaines ressources pour le fonctionnement des avions qui remplaceront par exemple le fuel et le pétrole ?
Il y a effectivement deux pistes en cours actuellement. Donc, il y a pas de l'hydrogène qui est actuellement qui sera utilisé pour ces avions civils, l'hydrogène, ou les carburants divers, c'est-à-dire à base d'huile, tout ça, c'est-à-dire végétaux. Donc, c'est à base de végétaux qui sont ça pour faire du carburant. Donc l'avenir effectivement sera sur les carburants qui sont verts et pas forcément du carburant pétrole tant que tel.
Pensez-vous qu'on pourrait rouler ou voler avec des avions électriques ?
Alors, voler peut-être pas, par contre, effectivement, on a des moteurs qui sont effectivement électriques et de carburant derrière. Donc, c'est plutôt hybride en tant que tel qu'électrique. Par contre, effectivement, c'est que le roulage d'avion maintenant, c'est surtout le roulage mécanique. Effectivement, l'avenir, c'est le roulage électrique. Donc, en gros, pour rouler sur les pistes d'avion, pas de moteur électrique. Effectivement, ça devient important. Et pour les appareils, sur l'avion, comme électrique, c'est un sujet important. S'il y a une panne de moteur, ce qui peut arriver en plein vol, donc s'il y a plus de courant électrique, l'avion peut tomber. Et pour cela, donc, il y a chaque avion comme ça, une éolienne qui est sur l'air comme ça, qui descend si le moteur s'arrête. Donc c'est-à-dire que si le moteur s'arrête, l'éolienne sort de l'avion, avec des pales en fait. Voilà. Donc chaque avion a comme ça une éolienne. Et ça, les gens ne savent pas forcément.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi et beaucoup de postes vacants ou pas ?
Alors la réponse est oui, et surtout dans un secteur très très varié. Donc effectivement, oui, en ce moment, l'embauche est assez forte. des secteurs très très variés.
Qu'est-ce que sera l'avion de demain?
L'avion sera effectivement, on va dire, silencieux. Il sera économe d'énergie. Donc ça, voilà, ça s'éprend principalement. Il sera très sûr aussi. Voilà. Et il sera également furtif pour la partie militaire. Donc en gros, tout ce qui est, disons, militaire sera plutôt des avions qui sont plus, on va dire, furtifs qu'avant, en tant que tel. Mais c'est que le civil, c'est des avions qui sont effectivement qui sont très très vertueux au niveau, on va dire écologie. Ça, ça va venir aussi, hein, qui est important. Et là, ça va bouger, je dis, fortement bientôt. Hein.
Donc, d'après ce que vous dites, les avions vont être améliorés, mais souvent il y a des contraintes. Donc, qu'est-ce que les avions de demain vont perdre, par exemple, en qualité?
C'est côté aile, parce que les ailes sont importantes pour l'avion, parce que effectivement, on va dire, plus elle est longue, plus ça porte mieux dans l'air, en fait. Donc c'est économe d'énergie. Donc, les avions sont plus grands en tant que tels, des ailes plus grandes, plus longues. Ça, c'est ce qui va arriver. Donc, il faut forcément plier au sol. Et autrement, bah, côté, on va dire connecté niveau communication en tant que tel, et plus on va dire autonome. Donc effectivement, le couple, c'est quoi? Donc c'est vraiment des avions, on va dire, qui sont, on va dire, autonomes pour voler. Et c'est pour ça que l'avenir, c'est des avions, on va dire, couple drone, combat en couple, on va dire, pour les parties militaires, et des avions, on va dire, plus on va dire automatiques et plus, disons, plus grands en taille pour les ailes, pour pouvoir voler plus loin.
Est-ce que sur les avions militaires, vous pouvez vous occuper aussi des armements, ou c'est que sur la partie pour voler?
Alors, c'est ensemble. C'est-à-dire des radars, des moteurs, des emports, des missiles, tout ça. Mais c'est global. Ouais.
Dans combien de temps pensez-vous que les avions de demain seront mis en place?
Alors, je pense d'environ 10 ans, à peu près. Dans 10 ans. Parce que ça va commencer à réfléchir de laboratoire par rapport à ça, donc c'est en train de bouger. Et en fait, on va lancer le prochain Airbus 320 qui va être lancé bientôt en tant que tel. Donc, effectivement, ça va. Il faut être à peu près 10 ans. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est vous qui allez faire justement les avions futurs en tant que tel, quoi.
Et quelle est la part de la recherche dans votre entreprise?
C'est à peu près, je pense, entre 10 et 20%.
Est-ce que la guerre a un impact sur votre métier? Si oui, lequel?
Oui, ça évolue très vite. Et actuellement, il faut savoir qu'actuellement, un drone, par exemple, actuellement, qui est en œuvre comme ça, dure en moyenne 6 mois. En global, actuellement, les drones actuellement, du combat durent en moyenne 6 mois au niveau technique. Ça évolue très, très vite. Donc, effectivement, les métiers maintenant font qu'on soit plus rapide pour qu'on soit des avions, tout ça, qu'avant.
Et vous-même, avec votre formation et votre expérience, vous pouvez travailler sur la recherche?
Oui, on peut, oui. Oui.
Vous l'avez
oui.
déjà fait?
Oui, on l'a déjà fait, oui, sur des secteurs de domaines assez.
Donc, c'est un autre secteur encore de
voilà.
boucher.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui font la recherche, développement, enfin, recherche pure en tant que telle, dans le laboratoire qui font ça uniquement, et après, effectivement, ceux qui font, après, qu'on conçoive les équipements et les avions. C'est pour ça qu'un avion, en général, il est préparé à peu près 10-15 ans avant, au niveau technique. On y pense 10-15 ans avant.
Vous travaillez combien d'heures par semaine?
Ben, les heures, c'est 38 heures par semaine. Enfin, c'est l'heure légale travail en France, quoi. Donc, on travaille tout au travail. Et des fois, on travaille plus, parce qu'il y a des fois, on travaille sur le projet, des fois, on travaille plus, parce qu'il faut être à l'heure et tout ça. Mais globalement, ça travaille normal, hein, les horaires.
Est-ce que vous pouvez nous dire une journée type de votre métier?
Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est que c'est un métier où on travaille en groupe, en plusieurs. Donc, forcément, il y a beaucoup de réunions, le travail en coopération, on se parle beaucoup. Et donc, forcément, il y a ça à faire, et puis on fait les choses par rapport à ça. Mais je veux dire, en général, le matin, on ne sait pas ce qu'on a à faire au travail, parce que chaque matin, on est là, on fait des réunions, on dit, tiens, il y a ça à faire, ça, c'est urgent, et on le fait. Donc, chaque jour, en fait, est différente.
Et vous pouvez travailler de jour comme de nuit, ou c'est tout le temps le matin pour commencer, ou...
Alors, nos métiers, c'est une journée de travail classique, hein, entre le matin, on travaille le jour entièrement, mais c'est une journée de commencer le matin à 9h, c'est le soir à 7h. Mais c'est une journée assez classique, hein, c'est pas de journée qui dure plus que ça.
Est-ce que vous prenez des stagiaires de 3e ou de seconde?
Seconde, on en prend, à peu près, je crois, 40 par an.
Est-ce que vous faites du télétravail?
Oui, on en fait, mais c'est un jour ou deux par semaine.
Quelles sont les qualifications et compétences requises pour faire un projet d'une construction d'un avion?
D'abord, être passionné par ce métier, donc passionné par son affaire, déjà. Être travailleur, donc la rigueur. Et également travailler en groupe, parce que c'est très collectif qui est fait, hein, c'est pas très unique. Alors, effectivement, un avion, c'est fait par plein de personnes, des métiers très différents, donc effectivement, du CAP à ingénieur. Donc, chaque métier est important. Et effectivement, il y a ceux qui vont monter l'avion, qui vont le construire et tout ça, et vont le tester et le produire. Donc, effectivement, les métiers sont très, très, très variés. Donc, c'est la mécanique pure, on va dire, électronique. C'est très, très vaste comme domaine, en fait, hein. Voilà. Chaque métier est porteur. Et on peut commencer, on va dire, avec un CAP, le domaine, sans problème. Il y a bac plus 2, donc il y a un domaine comme celui-là, ou le bac aussi, parce qu'on prend beaucoup de gens aussi au niveau bac pour faire les avions aussi. Hein. Voilà, donc il y a
plusieurs... Toutes les qualifications, depuis le CAP jusqu'à l'ingénieur, voilà, interviennent sur un projet.
Donc ça veut dire qu'il y aurait besoin d'électriciens pour, par exemple, les tableaux de bord, etc.
Entièrement, parce qu'effectivement, à l'avion, il faut dire qu'il n'y a pas de câblage dedans, donc il y a beaucoup de courant électrique qui circule dans l'avion, en fait, de câbles. Effectivement, le câblage, c'est un secteur qui est très important. Voilà, donc plus qu'électricité, c'est un sujet important. Et en l'occurrence, ça embauche en ce moment à Cergy. Cergy, sûrement, il y a pas mal de câblage qui est fait, en cas d'assaut. Donc oui, c'est un domaine extrêmement vaste comme sujet. Ça va de la mécanique,
etc. Donc là, vous parlez de sous-traitants.
Oui.
Donc, vous travaillez avec des sous-traitants.
Ah oui.
Et des exemples de sous-traitants?
Alors, en France, il y a donc Dassault Aviation, elle est principale, fournisseur d'avions militaires avec Airbus, en fait. Donc, il y a deux entreprises principalement. Et après, donc, il y a ceux qui font les équipements ou les systèmes à bord, qui sont effectivement sous Dassault ou sous Airbus, ou Boeing, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, il y a plusieurs rangs de fournisseurs dans lequel.
Et ces sous-traitants sont dans le projet de construction d'un avion.
Voilà.
La classe de 3e 4 du collège Samuel Paty vous remercie d'être venu nous présenter votre métier d'ingénieur en aéronautique.
Je fais la conclusion parce que c'est important. Donc c'est un métier qui est très très vaste, il y a plein de choses différentes en tant que tel. Chacun fait un métier différent en tant que tel. Donc il n'y a pas de métier type chez nous. Et surtout, si on veut le faire, faites-le parce que c'est un métier qui est vraiment intéressant. Voilà, franchement, c'est un métier qui est très très intéressant. Même pour les femmes, il faut savoir que chez nous, les femmes ont un rôle très important dans ce domaine-là. Parce que les femmes, en l'occurrence, apportent une démarche qui est vraiment très, très précise. En général, elles sont plus précises que les garçons. Donc, c'est un métier où on manque de femmes. Parce qu'elles ont un savoir-faire qui est important. Voilà. Dans le domaine. C'était un peu court, mais...